Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Vous écoutez le podcast LCDE, le casier de l'e-commerce, saison 4, épisode 137, en direct de New York et depuis le taxi de notre ami Guibert. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien et donc de Guibert, notre cher chauffeur.
Bonjour à tous, le café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train d'aller en cours, d'aller au boulot ou d'aller faire les courses.
Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-dose. Incisif, mais jamais méchant.
Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Au sommaire de cette émission, retour sur notre dernier jour à New York. Alors non, on va pas vous parler de nos visites, on va pas vous parler de notre shopping, on va vous parler de tout autre chose. Cette série s'achève, elle s'appelait la NRF pour notre récap français.
Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres.
Alors Laetitia, en intro, peut-être pourquoi on enregistre aujourd'hui? On est mercredi alors que la NRF s'est terminée hier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui?
Alors, écoute, moi je ne voulais pas terminer sans expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi de la NRF. Quand on vient à la NRF, on vient assister à des conférences, puis on vient rencontrer tous les exposants et toutes les solutions présentes. Mais il y a aussi un autre volet qui est les store tours. Avec Adrien, on s'était inscrit à pas mal de store tours, mais la réalité, c'est que il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'on était fatigué et qu'on pouvait pas tout faire. Donc on s'est dit, on va faire nos propres store tours, on a été accompagnés. Et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait des visites de magasins et pas n'importe lesquels.
Et du coup, c'était plutôt assez cool de les faire à ce moment-là, parce que le salon est fermé, mais du coup, on a bien profité du salon et on a profité de ce mercredi pour aller voir quelques magasins. On a vu quel magasin, Laetitia?
Alors, on a vu Lululemon, Birkenstock, Malbon, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Malbon, Pollen et Shopify.
Un magasin Shopify, Laetitia?
Shopify,
tu te trompes pas?
Une
non.
Oui, on va tout vous raconter.
Alors justement, peut-être on peut commencer par ça, Laetitia. Peut-être sans entrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a un magasin qui t'a marqué ou c'est quoi ton ressenti sur les visites de magasins qu'on a pu faire ensemble?
Alors, le point principal, je dirais, qui unit en tout cas Lululemon, Birkenstock, non peut-être pas Birkenstock d'ailleurs, mais en tout cas Malbon et Pollen, c'est que il y a des dispositifs Fijito qui sont installés, mais pour ces trois-là, il n'y a rien qui fonctionne ou alors il y a un truc qui déconne. Donc en fait, ça va pas. Donc déception, nous on s'attend à avoir une expérience figitale et donc à ce qu'il y ait du commerce en ligne en boutique, ou en tout cas des dispositifs qui vont nous pouvoir d'aller au-delà de la boutique. Et en fait, oui, il y a des dispositifs, mais ça marche pas quoi.
Quand on dit ça marche pas, ça veut dire soit
soit c'est un problème technique, voilà.
Soit c'est un problème d'expérience client tout simplement, c'est mal positionné, ou soit c'est pas visible, enfin pour une raison ou pour une autre, c'est mal, il y a de l'idée mais c'est mal mis en place, c'est ça Laetitia?
Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre l'exemple de Lululemon. Lululemon, c'est une marque de vêtements
yoga.
Yoga qui propose un super miroir, un miroir sur lequel vous pouvez vous connecter et suivre des cours de yoga, de méditation, de pilates, de tout ce que vous voulez. Et en fait, on arrive et alors il y en a quand même deux, hein, et il n'y en avait aucun qui fonctionnait. Alors, c'est pas qu'ils étaient cassés, c'est qu'on a demandé à la vendeuse, et elle nous a dit oui, bon, il est un petit peu lent, il vient de se réveiller, blablabla. Donc, c'est assez déceptif. Moi, j'ai scanné le QR code pour en savoir davantage. Et puis, il y avait aussi un autre dispositif. Peut-être que je vais t'en laisser en parler, Adrien, au-delà du miroir.
Justement, sur Lululemon, pour que les gens comprennent bien, Lululemon, c'est une boîte d'habits spécialisée dans le yoga et puis ils sont ouverts vers d'autres choses. Ils ont racheté une boîte tech, c'est les miroirs. C'est une sorte de Polotod, mais en fait, avec un miroir. Il y a pas mal de boîtes qui commencent à se positionner là-dessus. Et donc, ils vendent ce miroir connecté pour faire du sport. Donc, ils le vendent en magasin. Je crois que ça coûte 2000 balles, 1500, 2000 balles, quelque chose comme ça. Et ensuite, tu as un abonnement. Et effectivement, la démo ne fonctionne pas et c'était juste à l'entrée.
Adrien, il y avait un autre outil, device digital au sein de cette boutique.
Ouais. Je pensais que ça serait quelque chose de top et c'était plutôt un flop. C'est une sorte de tablette, je vais te laisser me reprendre, une tablette avec le catalogue. C'est comme si c'était le site internet, c'est pas le site internet, mais en gros, une tablette avec l'ensemble des produits. Donc tu peux naviguer très simplement sur tout le catalogue, donc ça c'est plutôt cool. Et quand tu vas sur la fiche produit, tu peux rien faire. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas l'ajouter au panier, tu peux à peine voir qu'elle est disponible en ligne ou en magasin. magasin, et encore faut bien regarder, et c'est tout, j'ai trouvé ça bidon. Et deuxième chose, il y avait un petit, si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas vu, tu peux scanner les produits, et pareil c'est mis tout en bas, mais tu scannes, bah tu vas voir ton produit, le même produit que tu as dans les mains en grand, et je vois pas trop l'intérêt, et puis tu peux toujours pas l'acheter particulièrement.
Ouais, ce qu'on doit retenir, c'est qu'en fait il y a aucun call to action et personne n'est guidé, en fait tu fais ta propre expérience tout seul, mais comme tu le disais pour le scan, bah en fait soit on a vu quelqu'un le faire, sinon le dispositif était pas visible. Donc, hyper déceptif. En revanche, gros point fort, les fiches produits sont belles, elles sont nickel, ouais. Il y a tout ce qu'il faut, c'est beau, mais pour acheter il faut scanner encore, aller sur un QR code et...
Mais en termes de contenu, ils ont fait le taf.
Ouais, en termes de content, là ils sont
plutôt,
au top.
C'est plutôt cool.
Il y a un dernier aspect, alors que pas du tout digital, mais il y a un studio en fait, donc c'est vraiment un concept store dans son entièreté. Au dernier étage, et vous pouvez vous pouvez payer des cours de méditation, donc vous achetez votre petite tenue et vous en profitez immédiatement puisqu'il y a des cours qui sont à l'étage supérieur.
C'est le mix salle de sport et puis salle store physique. Laetitia, on a vu, on va pas voir tous les magasins qu'on a vu, mais Pollen, ça t'a marqué, tu voulais en parler?
Ça m'a marqué parce que Pollen, c'est une DNVB que je suis depuis ses débuts, c'est une DNVB française spécialiste de la maroquinerie qui a une empreinte très forte, en tout cas sur l'éco-responsabilité. Tous les produits sont naturels, il y a beaucoup de recyclage dans les matières premières et ça se ressent. Alors Pollen a déjà des boutiques physiques à Paris, mais l'essence de Pollen, c'était de produire en ligne, c'est une DNVB pure et simple. Et là, c'est l'une des premières boutiques américaines et elle est très belle, elle reprend tous les codes du luxe et elle est équipée de tablettes. Bon, rien de nouveau, c'est un peu embêtant, c'est là quoi, voilà, on va dire que c'est là. Par contre, quand vous arrivez dans la boutique, vous avez une grosse machine, on sait pas trop à quoi ça ressemble. Il y a un ordinateur qui est relié à cette machine, un gros robot plutôt, et on sait pas si c'est une œuvre d'art ou si c'est arrivé là par on sait pas. Donc on a demandé au vendeur qui nous explique qu'en fait vous pouvez faire fabriquer des porte-clés avec des chutes de alors pas de tissu pour le coup, mais de cuir.
Donc là, jusque là c'est cool.
Là, jusque là c'est cool.
Sauf
que moi je connais très bien la marque et je dis mais c'est une marque européenne, tout est fabriqué. Alors dans ma tête c'était Portugal, mais en fait non, c'est plutôt Espagne, et tout est fabriqué en Espagne. Et donc voilà, apparemment, ça c'est le storytelling, toutes les chutes sont recyclées, sont en tout cas acheminées jusqu'ici à New York pour pouvoir produire des petits porte-clés à $80. Et bien sûr, la machine ne fonctionnait pas. Donc ouais, c'est génial, hein, mais on est encore dans du storytelling et du marketing.
Là, on est dans le greenwashing.
Bullshit, guys.
Laetitia, la boutique Shopify, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que tu peux l'expliquer?
Alors, la boutique Shopify, il y a deux boutiques Shopify aux États-Unis. Il y en a une à New York, il y en a une à Los Angeles. Le principe de ces boutiques, c'est de pouvoir accueillir la communauté Shopify autour d'événements, mais aussi de mettre en avant des produits de vendeurs Shopify. Donc les boutiques Shopify en ligne peuvent avoir un petit corner dans cet espace. Alors je pensais que c'était toutes les semaines sur le papier, écrit toutes les semaines, mais en fait ils changent tous les trimestres. Et vous avez pas mal de choses. Vous avez de la nourriture, vous avez de la papeterie, vous avez beaucoup de choses. Le bémol, vous pouvez pas acheter, vous scannez et puis vous êtes redirigé vers le site marchand. Donc moi dans mon esprit, je me suis dit c'est génial, vous avez une exposition en tant que marchand, que plutôt pas déconnante. Par contre, en fait, le ROI de ce que vous avez ainsi dans la boutique, il va être vérifiable ou pas sur votre boutique en ligne.
J'aimerais réagir parce que quand on m'a dit on va aller visiter une boutique Shopify, je me suis dit canon. Et en fait, on ne devrait pas utiliser le mot boutique Shopify. C'est un espace Shopify qui est divisé en quatre parties. La première, l'entrée, effectivement, tu as quelques marques qui sont mises en avant. La deuxième partie, c'est un espèce de café, enfin un coin où tu peux prendre un café ou un thé. La troisième partie, c'est un espace de conférence où des marques peuvent parler, ou Shopify peut présenter. Et la quatrième partie, que j'ai pas vue, mais que tu as allé faire une petite finesse en bas, c'est un endroit, un studio pour faire des photos.
Un studio photo que vous pouvez réserver.
Si tes clients Shopify, tu peux le mettre ensuite sur ton site. Du coup, on appelle ça boutique, mais boutique, c'est un quart de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on y était, ils nous ont un petit peu chassés parce qu'il y avait un événement qu'ils étaient en train d'organiser pour des conférences. Et donc je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on l'appelle boutique Shopify pour simplifier, mais c'est pas vraiment une boutique finalement. Et en plus, partout, c'était quoi ? J'ai pris des photos. En tant que boutique, tu vois des gros visuels avec CCS, composé. Ben là, ça, le client, il ne comprend rien. C'est pas
le
pour
client ne comprend rien. Non, je pense que c'est vraiment un lieu pour accueillir la communauté. Et surtout, ce qui est, enfin, d'un point de vue marketing, c'est génial, quoi. Les gars ont compris pas mal de choses. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que nous, sur le salon, on ne s'est pas fait jeter, mais en tout cas, c'est compliqué de discuter avec des gens de Shopify. Ça s'est plus ou moins révélé dans cette boutique, mais en tout cas, voilà, on avait un point de contact et des gens avec qui parler et un tout autre aspect de Shopify. Et pour clôturer ce quatrième jour, nous sommes allés interviewer Michel Coq de Diamar Connect.
Et pour ce dernier épisode récap, on a le plaisir de nous retrouver avec Michel. Bonjour Michel.
Salut Adrien.
Salut Michel.
Salut Laetitia.
Michel, t'es venu plusieurs fois au micro, mais je vais te redemander.
Et à la NRF.
Je vais te redemander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas.
Je suis Michel Coq, je dirige Diamar Connect. On anime, on essaye d'animer et puis on y réussit d'ailleurs. L'écosystème Retail Tech avec un prisme qui est double. On veut aider les retailers à décrypter la technologie. On veut aider la tech à rencontrer les retailers et pour ce faire, eh bien, on crée des contenus qu'on essaye de faire aussi intéressants que possible et puis on fait des mises en relation. Donc voilà, Diamar Connect, c'est les spécialistes du retail sur le volet consulting et les spécialistes des connexions entre retailers et innovation.
Michel, tu es ici à la NRF, c'est parce qu'en fait, tu es venu souvent à la NRF et tu fais souvent des voyages d'affaires. Tu reviens ensuite en France pour faire des back from et couvrir ce qui s'est passé. Donc, tu es vraiment un observateur aguerri du marché et de ce qui se passe. Ma première question, cette édition NRF, elle est bien ou pas ? Elle était bien ou pas ?
Elle était bien, oui. Mais il ne faut pas oublier que la NRF, c'est quoi ? C'est le rendez-vous du monde du retail. Et quand je dis le monde, on parle de jusqu'à 45 000 personnes qui viennent sur un événement qui réunit quasiment tout l'univers de la tech et tous les retailers du monde. Donc, ce n'est pas juste les États-Unis. Évidemment, c'est l'observatoire de ce qui se passe aux US et en Amérique en général. Mais c'est aussi ici qu'on vient pour prendre la température du marché du retail qui est énorme aux US. C'est une bonne édition pour répondre à ta question. Pourquoi ? Parce que on sort d'une année 2022 et d'une édition de 2022 où j'étais catastrophique. Ils l'ont pas trop crié sur les toits, mais il y avait un tiers, un quart du public habituel. Il y avait moins de 10 000 personnes. Ils en ont annoncé 15 000. Ici, cette année, on est 30 000. Donc ça repart, il y a une superbe énergie. L'année dernière, tout le monde avait des masques, tout le monde faisait des tests Covid du matin au soir pour savoir s'ils allaient pouvoir reprendre l'avion. Cette année, ça se voit à peine, quelques masques par-ci par-là, un peu de gel.
C'est vrai qu'on dirait que ça a disparu Covid.
Des gens qui éternuent partout, des rhumes dans tous les sens. Donc on est revenu à un monde normal, on va dire le monde d'avant Covid. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. L'édition est réussie pour cette raison-là, c'est que c'était très vivant, très dynamique, beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, une envie de reprendre le business, des techs dans tous les sens et les grands qui sont revenus. C'était les grands absents, hein, les big tech américains, les Salesforce, les Microsoft, c'était des espaces vides l'année dernière, des trous dans la moquette, c'était déprimant. Et là, on voit bien qu'ils sont revenus en force. Donc oui, c'est une édition très réussie.
Michel, toi, d'un point de vue personnel et professionnel, qu'est-ce que tu es venu chercher à la NRF ?
Bah, on vient chercher un peu toujours la même chose, dire what's new ? C'est quoi les innovations qui arrivent des US et d'ailleurs ? Quels sont les concepts de magasins qu'il faut aller visiter dans Manhattan ou dans New York en général pour voir un petit peu les tendances, les choses qui sont testées, etc. Et puis, on vient aussi pour le networking. C'est pas neutre. C'est amusant de savoir qu'ici, on retrouve non seulement des Français, mais voilà, toute l'Europe se retrouve ici, des Anglais, des Hollandais, énormément de Brésiliens. Donc, c'est aussi une occasion de networker à l'échelle internationale qu'on n'a qu'une fois par an et c'est à la NRF.
Est-ce que tu as rempli ces trois cases ? Le networking, les innovations et les store tours ?
Alors, j'en ai, on va dire, deux sur trois pour l'instant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller visiter des magasins dans New York. Je vais le faire demain et j'espère que ce sera efficace. Mais le networking, oui, clairement, j'en ai fait même plus que de raison. Et puis, les conférences, toujours intéressantes, passionnantes, énormément d'insights, de points de vue. On sent bien, on prend bien la température des grands retailers américains.
Alors, avant de parler des tendances et vraiment sur le fond, encore une fois sur la forme, j'ai une petite question. Comment est-ce que tu as partagé ton temps entre les conférences où tu es enfermé 30 minutes ou une heure dans une salle sans savoir si ça va être intéressant, les rencontres inopinées, les des stands pour aller chercher des choses. Et en plus, tu accompagnais une délégation, donc il fallait aussi s'occuper d'eux.
Effectivement, je dirais que j'ai passé 50% de temps en conférence pour entendre les leaders du marché américain, 30% sur les stands et des rencontres inopinées, et il me reste effectivement 20% pour le reste. Et le reste, c'est des rencontres ciblées. Mais je suis très frustré. On revient toujours frustré de la NRF, de pas avoir des journées de 100 heures pour tout caser. Ça va très très vite. C'est 2 jours et demi, ça se finit. Et il y a tellement de stands. J'entendais quelqu'un dire, si on voulait voir tous les stands à la NRF, il faudrait passer 14 secondes par stand et y être 8 heures par jour. Donc voilà, ça vous
donne une
idée.
On n'a pas réussi, nous, avec Canaria. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Michel, est-ce que tu peux nous partager les 5 grosses tendances que toi, tu as pu observer ici à la NRF ?
Alors, en écoutant les patrons du retail américain, il y a effectivement 5 sujets. Peut-être un peu plus, j'ai pas encore fait tout le tour, mais qui vont ressortir. Première chose, c'est que avec l'impact des crises, Covid, puis inflation, puis guerre, etc., on est dans un monde qui se sépare entre 2 extrêmes, les pauvres, les riches. Ouais. Il n'y a plus de milieu.
Je te rejoins complètement.
Là-dessus, mais voilà.
Et attends, c'est dur de m'arrêter sur ce sujet. Ouais. Moi, la révolte de service, mais c'est dur d'entendre ça ici, parce qu'il y en a qui le disent très clairement. Ça n'existe plus, la middle class.
On est aussi dans un pays qui est clivé.
Qui fonctionne comme ça.
On a du mal à l'entendre avec notre vision.
C'est extrêmement difficile.
C'est du pragmatisme. Bah oui, c'est comme ça. Il y a les très riches, le luxe cartonne.
Exactement. Et du coup, ils vont miser sur les très riches.
Voilà. Donc beaucoup de conférences sur ce sujet-là, et effectivement, t'as raison, il n'y a pas énormément d'état d'âme par rapport à ça.
Ah non, c'est
donc ça, c'était la première
donc plus de milieu, voilà, première chose. Deuxième chose, toujours en lien avec les crises, on est dans un retour au basique, back to basics, très fort, des budgets qui sont resserrés, des efforts qu'il faut faire, et là encore, pragmatisme à l'américaine, ça veut dire des plans sociaux, ça veut dire des coupes sombres dans tous les budgets, le marketing, etc. Il y a des sujets qui continuent d'être supportés, la tech, et s'en sort toujours bien, parce que ils sont encore, pour certains, en retard en matière d'innovation, et c'est vrai que si tu t'arrêtes à innover, tu meurs. Donc voilà.
Excuse-moi, Michel, ça fait écho à quelque chose dont j'ai pas encore parlé dans le micro, mais c'est que on parle pas beaucoup de l'humain, je trouve.
Alors j'y viens.
Mais effectivement, quand tu veux virer, que tu veux te reconcentrer, back to basic. Bon, l'humain dans tout ça.
Alors oui, effectivement, le corollaire, mais je l'ai mis en point 4. Mais
ah pardon, je vais trop vite.
Tu
Laetitia,
devances ma pensée.
Je crois qu'elle a pris une photo de tes notes.
Non,
c'est pour ça. C'est pour ça, être riche.
Non.
Donc, ça fait point 2.
Je vais y venir. Point 3. Et ça, c'est moi ce qui m'a le plus marqué d'ailleurs, c'est cette notion de retail as a platform. On parle beaucoup de plateformes technologiques, de marketplace, etc. Les retailers deviennent des marketplaces, deviennent des plateformes, et ils le disent et ils l'expliquent. Très impressionné par Petco, j'en parlerai dans le back from en détail, mais en 3 mots, t'as retail as a service. Les retailers veulent tous devenir des one-stop shops sur leur sujet. On passe du produit à l'expérience. On en parlait déjà du retail expérientiel, mais c'est ce qui fait revenir les gens en magasin, c'est les expériences et non pas seulement les produits. Évidemment, il faut avoir des bons produits. Et 3, on raisonne non plus en share of wallet, en part de marché client, on part de share of life. Et on expliquera ce que c'est que le share of life, mais c'est vraiment l'idée d'avoir des connexions fortes avec ses clients.
Ça fait penser un peu au temps de cerveau disponible, ce concept.
Exactement, c'est un petit peu la même notion. Quatrième point, Laetitia, à juste titre, tu parlais des people. Il y a 2 priorités qui sont mises en avant, et c'est la première fois que j'entends les gens, les retailers, les patrons dire d'abord les people, ensuite les customers. Mais c'est toujours ces 2 briques-là qui sont les 2 piliers des stratégies retail. Donc people and customer first. Et sur le people, c'est comment aider nos équipes à mieux faire leur boulot. Et ça, c'est pas juste les rendre plus efficaces, c'est les délester de tout ce qui n'est pas essentiel pour qu'il traite bien le client en magasin. Et donc, c'est quand on dit people et customer first, c'est aider nos équipes à aider nos clients. Et donc, c'est customer facing, c'est-à-dire les sortir des sujets d'inventaire. Enfin, voilà, tout ce que la technologie peut aller chercher que l'associate, le vendeur, va pouvoir lui confier, ça va lui redonner du temps pour être en face des clients et parler aux clients. Donc on revient ça boucle la boucle avec le retour aux fondamentaux, puisqu'on revient aux fondamentaux du commerce. On veut des commerçants dans nos magasins.
Il y a plein de conférences et de solutions où on remet vraiment l'associate au milieu. Ça, je trouve ça plutôt cool.
Tout à fait. Et Raphaël en parlera.
Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que Raphaël en parlera mieux. Mais il y a quand même un truc un peu déprimant, je trouve, Michel. C'est back to basics, quoi. C'est-à-dire qu'on les a oubliés à un moment donné. On s'est égaré.
Exactement.
C'est un peu flippant.
On regarde les sujets de l'année dernière, NFT, métavers, etc.
Exactement. C'est là où on
ils en ont parlé
de l'égarement
à la marge. Et j'en ferai même pas un de mes points. Ce sera un des sujets. Et le cinquième point. Et pourquoi je l'ai mis en cinquième? Parce qu'il y a le discours et il y a les actes, et ça ne suit pas forcément tout ce qui est CSR, Corporate Social Responsibility. Ils sont pragmatiques par rapport à ça, toujours américains. Donc on dit oui, c'est important, il faut le faire, etc. Mais il n'y a pas encore d'éducation auprès du grand public, il n'y a pas encore de vraies demandes dans ce domaine-là. Ils reconnaissent d'ailleurs, et c'est un analyste de McKinsey qui le présentait, que l'Europe est largement en avance en termes d'éducation et de awareness sur ce sujet-là. Nous, ici aux États-Unis, c'est ce qui se passe, c'est que ils sont très forts pour parler d'équité, tout ce qui est
diversité,
inclusion. Voilà.
Alors ils en parlent, ils le montrent, la NRF se fait le champion de ça, mais est-ce que ça correspond à une réalité dans la vraie vie? Point d'interrogation. Et deuxième point, le discours sur l'éco-responsabilité, l'empreinte carbone, etc. Il est là aussi, mais on ne sent pas d'urgence. On ne sent pas que c'est en haut de la pile.
Ouais.
Il y avait des signaux faibles les années précédentes au NRF. Là, il y a un signal un peu plus fort, mais ce n'est pas encore vraiment là. Et tant que ce n'est pas rentable, tant que ce n'est pas profitable, ce ne sera pas un sujet.
Tu sais, Michel, quand on était au consulat de France, il y a, je ne sais plus si c'était le gars de printemps, je crois que c'est le gars de printemps qui a dit en fait, on ne peut pas demander à notre client de choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Et en fait, on est complètement là-dedans, quoi. Et du coup, ici, on ne demande pas du tout, on occulte la fin du monde. Par contre, la fin du mois est une priorité.
C'est biaisé la manière dont tu le présentes, parce que ce n'est pas incompatible.
C'est pas incompatible, c'est l'urgence.
Pas la fin du monde.
Exactement, c'est pas palpable,
c'est pas une réalité.
Ici, c'est pas une réalité, exactement. Par contre, la fin du mois et même la fin de la semaine est une réalité. Et pour les retailers, ça doit faire partie également de leur réalité.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses parmi ce que tu as vu? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont transposables en France? Tu vas faire le back from RRF, c'est un delivery, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses que les retailers français vont pouvoir apprendre par rapport à tout ce que tu as vu ici?
Je pense que quand il est question de, typiquement, mon sujet numéro 3, ce retail as a platform, je pense que c'est un sujet pour tout le monde et qu'il faut que ça fasse réfléchir le retail français. C'est déjà le cas chez certains grands groupes, je pense à Adeo tous réfléchissent à leur positionnement en tant que marketplace, en tant que plateforme.
Puis les marges sont plus importantes, etc.
Mais c'est peut-être une tendance à observer et sur laquelle on peut s'inspirer. Et puis le pragmatisme. Bon, on est pragmatique aussi en France. On est un peu plus sentimentaux que les Américains, mais on est pragmatique. Et donc, toutes les bonnes pratiques de réduction de coûts, d'efficacité, d'efficience opérationnelle, tous ces technos qu'on ne voit pas aussi, qui peuvent aider à optimiser les stocks, la supply. Il a beaucoup été question de supply et de stock et d'offres aussi. Les produits, ça revient. C'est un des basics d'ailleurs, c'est l'offre. Je pense que tout ça, ça pourra donner des indices sur les bonnes choses à faire en France.
Michel, on se donne rendez-vous à la NRF 2024
Absolument, on y sera. Vous y serez, j'espère aussi. Et puis on aura aussi des belles techs et des techs French tech qui seront. Je voudrais quand même pas conclure sans en parler. J'étais super impressionné par le travail de Business France, de Mike, de Catherine pour faire venir 40 pépites françaises. Pour l'anecdote, il le racontait lors de la soirée French tech. La première année, il y a 6 ans, il y avait 6 techs françaises. Et parmi ces 6 techs, il y avait qui?
Miracle,
Content Square, Alchemix, c'est la même chose, mais qui sont devenus quoi, des licornes. Donc sur une promo NRF, t'as 50% de taux de réussite derrière. Donc c'est très, très très bon augure pour celles qui étaient là cette année. Et si parmi les 40, on en a 20 qui deviennent des licornes, on sera vraiment les leaders mondiaux de la retail tech. Donc je suis très confiant.
Michel, tu as pris plein de notes, tu nous en as déjà partagé, mais je crois que tu prépares des vraies reconstitutions un petit peu plus approfondies. Rappelle-nous les dates.
Tu le crois ou tu le sais ? Moi, je sais que tu le sais puisque tu vas en faire partie.
ne dis pas tout.
Non, rappelle-nous
les dates de ces
Back
from NRF.
On a deux dates, une date à Paris et une date à Lille, parce que nous, on a notre cœur balance entre Paris et Lille, tu le sais.
Oui.
Paris. Le 31 de ce mois, donc 31 janvier, ça arrive très vite, donc on a un petit peu la pression.
Ouais.
Et le lendemain, à Lille, et tout ça en format petit déjeuner. À Paris, on va être chez Orange. À Lille, on va être chez KPMG. On a des super partenaires aussi sur ces deux conférences Back From. Les retailers peuvent s'inscrire, ils sont invités. On a des places limitées, donc c'est surtout les retailers qu'on veut voir, parce que c'est ceux qui n'ont pas pu venir à la NRF et qui veulent revivre un petit peu ce qui s'y est dit, donc pour partager avec eux. On aura Raphaël Catan de Talenco, on aura Adrien aussi. Je livre un secret ou pas? Non.
Non, c'est très bien. Effectivement, bon. Je suis heureux de pouvoir venir participer.
Et puis Laetitia, tu nous soutiendras moralement. Parce que
peut-être que je ferai une apparition.
Peut-être. Voilà, elle aime bien faire des
surprise. Et donc, ce Back From, c'est ce qu'on fait chaque année. C'est pour ça qu'on vient aussi à la NRF. C'est essayer de raconter les histoires qui sont racontées ici, faire partager les réflexions, les stratégies, les visions, un petit peu prendre la température du retail américain et pourquoi pas s'en inspirer.
Et nous, avec Adrien, on a déjà assisté à tes bacs.
Raphaël et Émilie sont partis à faire quelques store tours et on va ramener des images, des insights, etc. Donc voilà.
Donc allez-y, inscrivez-vous.
Vous avez le lien, sûrement on pourra le partager pour les retailers.
Et
je me rappelle que c'est ouvert aux retailers en priorité, qu'on a un nombre de places limité, donc les techs, contactez-nous si vous voulez être partenaire.
Et puis faites un petit mot, si vous voulez être partenaire, vous mettez le café de l'e-commerce et je suis sûr que
code
Michel,
LCDE.
Voilà, tu trouveras des petits tickets en plus où tu pourras avoir des discussions beaucoup plus faciles. Michel, merci mille fois.
Merci à vous.
Merci Michel.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Plaisir de te recevoir.
Et puis là, se retrouver à New York ensemble, c'est cool.
C'est
ça
top.
Laisse présager d'autres choses et je suis effectivement heureux de pouvoir faire ce retour de la NRF avec toi. Ça va être très très sympa. Bonne fin de salon, bon retour en France et à très vite.
À très vite.
À bientôt.
On a également eu le plaisir d'avoir Maxence au micro qui a visité une centaine de magasins en 4 jours. On l'écoute, c'était passionnant. Il nous fait un retour sur ses store tours et ses store checks. En nous baladant dans les rues de New York, nous sommes tombés avec une tête qui ne nous était pas inconnue. C'est Maxence. Coucou Maxence.
Salut Adrien. Salut Laetitia.
Hello Maxence, bienvenue dans le café de l'e-commerce ici à New York. Maxence, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ici à New York ?
Alors, qu'est-ce que je fais à New York ? Je fais la chasse au figital. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais me présenter un petit peu. Ça fait 15 ans que j'analyse les magasins physiques sous l'angle du digital, et notamment sous l'angle du figital utile. Comment les magasins vont pouvoir traiter des vraies problématiques d'espace, de manque de stock ou d'expérientiel ? Et donc, on fait ça un peu partout en Europe et dans le monde. Et donc, on avait pour challenge de faire une centaine de magasins là, en 3 jours. À la chasse au figital.
Parce que toi, Maxence, t'as une boîte qui est dédiée à tout ce que tu viens de raconter. C'est
ouais,
improvise, c'est ça?
Tout à fait, c'est improvise.
Donc c'est ton job, en fait, de faire la chasse au magasin et au figital.
En fait, notre job, c'est d'aider les marques à réussir dans le commerce physique et réussir à faire des ventes sans dépendre des mètres carrés et des stocks. Et donc, ça fait partie du job d'analyser tout ce qui existe en magasin, les tendances, etc.
Et la coïncidence ou la beauté de tout ça, c'est que nous, on a assisté à la NRF, au congrès. Il y avait pas mal de store tours qui étaient organisés, mais c'était souvent sur 2 heures. Et toi, ça fait 4 jours que tu passes, 4-5 jours, tu passes 10-12 heures par jour à faire des magasins. Tu peux nous dire combien de magasins tu as visité ? On en parlait tout à l'heure en off.
Alors, on est à plus d'une centaine. Plus d'une centaine de magasins. On va encore en faire d'ailleurs encore quelques-uns ce matin. Mais ouais, ça fait un gros paquet. Ouais. Et j'ai pas mis les pieds du tout à la NRF. J'ai croisé plein de monde de la NRF dans les magasins, mais je n'ai pas mis un pied à la NRF.
Et avant d'aller dans le détail, juste pour rester sur quelques chiffres, quel est le magasin et combien de temps tu as resté le plus longtemps sur un magasin ? Et inversement, quel est le magasin et combien de temps tu as resté le plus court sur un magasin ?
Alors, le plus longtemps, c'était American Girl.
T'as resté combien de temps ?
Je crois qu'on a dû rester 2 heures, on a dû rester 2 heures, 2 heures et demie dans le magasin.
American Girl, c'est le magasin de poupées, de Mattel.
Ouais. Exactement, avec ces poupées déclinées à l'infini dans plein de tableaux différents. Et puis avec la culture américaine, c'est l'histoire de la petite fille américaine qui est retracée au travers des poupées. Donc c'est assez magique, c'est très expérientiel. Et d'un point de vue digital, c'était assez intéressant à analyser. Donc on a fait de l'analyse comportementale, on a fait de l'observation, on a pris énormément de photos, de vidéos, etc.
Alors, American Girl, 2 heures. mais deux minutes chez qui ?
Ouais. Alors, on va revenir sur le fond dans une seconde, mais d'abord restons déjà sur à haut niveau pour rebondir sur l'histoire.
Je ne sais pas te répondre parce qu'on en a fait tellement.
Urban
Outfitter, je pense.
Oui, voilà, qui n'offre pas spécialement et ouais, ça y est, voilà. Le concept est implanté. Quoi. J'y suis allé aussi.
Tu as fait une centaine de magasins. Est-ce qu'il y a quelques petites choses qui t'ont marqué à haut niveau ? Et on va aller dans le détail dans une seconde.
Oui, alors à haut niveau, il y a trois choses qui nous ont marqué. Je suis déjà venu il y a 3 ans et c'était déjà la chasse au figital. Là, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de figital dans les magasins qu'il y a 3 ans. Donc, d'une certaine manière, ça montre un peu que c'est un sujet. Le deuxième truc, c'est Shopify POS. On a été impressionnés, on en a vu. J'ai l'impression qu'on en a vu.
Bon, là, on vient de voir
partout,
Square.
Quoi. Ouais, c'était Square. C'est vrai, c'était Square.
Et c'était plutôt pas mal. Hein.
On l'a peut-être vu peut-être 20, dans 20 ou 30 magasins. Quoi. Ouais.
Et ces magasins qui utilisent Shopify sur leur e-commerce, c'est ça, et qui ouvrent ensuite et qui utilisent le POS. Et tu le reconnais parce que tu vas jusqu'aux caisses et tu regardes c'est quoi le système de caisse, comment c'est utilisé, c'est ça ?
Ouais, d'ailleurs, on a dû acheter pas mal. Hein. On a dû sacrifier la carte bleue, elle a chauffé là.
Tu dois acheter et revenir 10 minutes plus tard et finalement tu le retournes. Ok, ça c'était le deuxième point. Et le troisième ?
Le troisième, c'est une explosion des DNVB qui ouvrent des magasins. On a vu énormément d'e-commerçants DNVB qui ouvrent des magasins.
Alors il y a un truc particulier sur les DNVB, c'est qu'elles sont concentrées dans un quartier de New York. C'est qu'elles sont pas comme ici à Soho ou sur Broadway. Elles sont plutôt où ces DNVB ?
Alors elles sont concentrées dans 2 endroits, même s'il y en a un petit peu ailleurs aussi. Il y a Soho, le quartier d'ailleurs dans lequel on s'est croisés. Brooklyn aussi, on a vu beaucoup de DNVB. Et puis il y a des petits rebelles qui sont 5e avenue au nord, etc. Je pense à LM Lafleur, Casper qui est complètement au sud aussi, mais qui a plusieurs magasins. Ils sont aussi à Soho, mais c'est surtout Soho et Brooklyn. Il n'y en a pas trop sur la 5e avenue. Ouais.
J'avais une dernière question avant qu'on parle de quelques exemples qui t'ont marqué. C'est, tu sais, on entend beaucoup parler, on fait des store tours. Pour la plupart des gens, ça veut dire quoi faire un store tour? On ne comprend pas. C'est juste aller se balader, regarder le magasin, comment il est fait et puis ressortir. Et en fait, c'est autre chose parce qu'on en a fait ce matin ensemble. Tu peux expliquer
un peu
le.
Pour compléter, c'est quoi un store tour efficace?
Ouais.
Et d'ailleurs, tu me disais la distinction, pardon encore une fois, mais de store tour et de store check. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien que tu en parles.
C'est marrant, j'allais y venir. Bah, un store tour, c'est un peu comme une visite guidée de magasin. Donc t'as un guide et puis il présente les magasins, etc. Je pense qu'il y a autant de store tour que de type de présentateur. Tu peux très bien faire un store tour orienté sur le pré-tap. T'as des store tour orientés sur le magasin expérientiel, les NFT, etc. Donc, et après, les store check, c'est tu vas en magasin pour les analyser. Donc là, tu as une liste de magasins, tu les analyses, etc. C'est pas exactement la même méthode. Le store check, tu as toute une checklist de choses à analyser, de choses que tu ne vois pas d'ailleurs. Nous, par exemple, on va analyser le site e-commerce avant de rentrer dans le magasin pour comparer le nombre de refs que tu as à l'intérieur du magasin avec le nombre de refs que tu as en ligne. Birkenstock, par exemple, on s'est amusé à compter les chaussures dans le magasin. Il y en avait 324. Sur le site web, il y en avait 900. Donc en fait, tu vois qu'il y a 3 fois plus d'offres en ligne qu'en magasin. Et c'est le genre de produit, c'est tous les mêmes, il y a juste le cuir qui change, la texture et tout. Quoi.
Et du coup, Maxence, qu'est-ce que c'est qu'un store tour complet, réussi et efficace, selon toi ?
Alors, je vais répondre sous mon angle de vue, parce que nous, ce qu'on cherche, et c'est très particulier, c'est vraiment ciblé sur les problématiques que vivent les commerçants d'aujourd'hui, quasiment tous, hein, à la fois les mètres carrés, les problèmes de mètres carrés, on ne peut pas pousser les murs, et quand on a 900 produits à vendre et qu'on a 50 mètres carrés, comment faire ? Donc on est ultra focus sur comment les marques, les enseignes résolvent ce problème-là. Et la deuxième chasse, objet de la chasse dans nos store checks, c'est l'histoire, le storytelling. Il y a des marques qui ont des histoires très puissantes à raconter, des valeurs intrinsèques de produits qui sont extrêmes. On parlait de pollen tout à l'heure, les sacs sont chouettes, Lululemon aussi, ils ont une très belle histoire à raconter. Et on chasse comment les marques racontent cette histoire qui joue sur la valeur perçue au final des produits et donc sur l'achat. Donc quand on fait un store tour, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que de la caméra cachée pour être pris vraiment sur le fait. Qu'il n'y ait pas de biais cognitif au niveau des vendeurs. Par exemple, un vendeur, si on arrive et qu'on se présente en tant qu'analyste, il ne va pas avoir le même discours que si on se présente comme client, visite mystère, etc. Donc je pense qu'un store tour réussi, y a plein de critères de définition.
C'est un store tour anonyme déjà.
Ouais, alors nous, notre point de vue, c'est on veut voir de la vraie vie, pas du bullshit ou de ce que pourrait dire une agence de com ou de presse, etc. On veut montrer la vraie vie.
Et techniquement, tu n'as pas fait 100 store tours, tu as fait plus de 100 store check. Et il faut faire un store check avant de faire un store tour si tu veux faire le truc propre. Le préparer la visite, c'est etc. Ça. Et je voulais juste rajouter une chose que tu m'avais dit en off qui est très intéressante. C'est pas juste regarder le dispositif digital en magasin, parce qu'à la limite, il y a des jolies tablettes, il y a des jolis écrans, mais tu t'assois et tu regardes est-ce que c'est utilisé, est-ce que ça convertit, est-ce que c'est efficace. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est pas juste le démo, mais est-ce que ça fonctionne.
Ouais, tu regardes aussi les vendeurs, leur comportement. Tu vas regarder aussi le comportement des clients. Si jamais il y a des écrans, tu vas regarder est-ce que les clients ils s'arrêtent dessus ou pas, etc. Parce que c'est pas le tout de mettre des écrans en magasin. Déjà, s'il y a des écrans, c'est qu'il y a un problème à la base. Ils mettent pas des écrans par plaisir, ça coûte de l'argent, etc. C'est qu'ils ont essayé de résoudre un problème à la base. Donc après, une fois que le truc est fait, est-ce qu'il est vraiment utilisé? Et là, t'es obligé de rester, d'analyser, de compter les gens, regarder s'ils regardent, etc.
Maxence, tu parlais des mètres carrés dans les boutiques. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées à New York. T'as beaucoup de boutiques à louer, beaucoup de boutiques à racheter. Je t'ai vu il y a 4 ans, je crois, et je pense que c'était plutôt ce que tu disais. On cherchait des mètres carrés, et là, y en a quand même à foison, quoi. Est-ce que tu partages ce constat qui est quand même un retail sinistré?
Ouais, c'est le retail est en crise et c'est l'aube. On est qu'au début en fait de cette crise là. Tu vois ce que j'appelle le retail traditionnel, qui est le retail qui vient d'il y a 150 ans. C'est tu agences un espace, tu mets des stocks, tu rends l'écran un peu joli, etc. Mais le e-commerce a changé la donne complètement. Regardez ce qui s'est passé avec les librairies quand Amazon est arrivé. Ils se sont dit, moi je veux me positionner en ayant la totalité des livres de la planète. Donc quand t'es une librairie et que t'as 1000 refs, comment lutter contre quelqu'un qui en a plusieurs millions? Et ça, tous les commerçants d'aujourd'hui sont soumis à ça. C'est-à-dire que si j'ai un magasin de sport, Lululemon, c'est leur cas. Je veux être spécialisé sur le yoga. Je ne dois pas être contraint dans mes mètres carrés. Je dois offrir la meilleure offre possible, quels que soient les mètres carrés que j'ai.
Alors, est-ce que je vais te demander quelque chose de très, très difficile? Je veux que tu condenses les centaines de magasins que tu as pu voir. Est-ce qu'il y en a un que tu veux nous partager au micro ou quelques insights ou quelques clients qui font les choses bien, qui pourraient aider nos auditeurs?
Ouais, on a vraiment vu plein de choses intéressantes, à la fois positivement, mais aussi des choses moins chouettes. Mais si les enseignes font ce genre d'erreur-là, c'est que tu veux dire qu'il manque aujourd'hui encore de pédagogie, d'évangélisation, etc. Donc, première chose, c'est que parmi tout ce qu'on a vu, j'ai rien vu de vraiment bluffant qui m'a séché. Tu m'aurais dit en France, c'est quoi mon coup de cœur? Je t'aurais parlé de Motoboost, Basket for Ballers. Ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur des bandes sur 200 mètres carrés. On n'a pas trouvé ça là à New York. Après, on est peut-être passé à côté du magasin qui cartonne. Hein. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé le truc extraordinaire. Par contre, d'un point de vue purement consommateur, j'ai adoré American Girl et FAO Schwartz. Donc c'est des boutiques qui sont extraordinaires, qui fonctionnent très bien. Il y a d'ailleurs plein de choses à s'inspirer. Ceux qui veulent créer des boutiques aujourd'hui et qui veulent passer à ça, il y a des très bonnes choses à s'inspirer là-dedans, y compris d'un point de vue digital. Il y a des leçons à tirer d'American Girl d'un point de vue digital. On a bien aimé, d'un point de vue digital, Lululemon, Glossier, Converse. Il y a un truc que j'ai adoré chez Converse. J'ai découvert qu'il y avait un art de faire ses lacets. Et c'est artistique en fait de faire ses lacets. T'as plein de manières de faire. Et ils ont un écran en fait qui te montre plein de manières de faire différentes. Et donc tu peux les croiser, etc. Et ça en fait, si tu sais pas, tu passes à côté complètement. Et le mec vend sa chaussure et tu repars avec. Et voilà. Alors que l'écran, là, ils ont un écran qui explique plein de manières de faire différentes. Et c'est très pédagogique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa.
Les gens essaient de faire des lacets, etc. Enfin, ils engagent avec la vidéo.
Alors honnêtement, j'ai vu personne l'utiliser. Mais c'est un des enjeux du digital aujourd'hui. C'est améliorer la valeur perçue des produits, la valeur intrinsèque pour donner envie et mieux faire passer le prix aussi. Ça m'a presque donné envie d'acheter des Converse parce que du coup je me dis comme ça au moins je peux faire plusieurs types de lacets différents, etc.
Alors que des lacets, il y en a sur beaucoup de chaussures autre que des Converse.
C'est un peu comme une autre cravate, tu vois, d'ailleurs il y a plein de manières de faire des autres cravates, mais quand tu sais pas. Et donc faut savoir que c'est un des besoins primitifs. Alors il y a respirer, se reproduire, etc., mais la quête d'information est un des besoins primaires de l'être humain. Et donc quand tu rentres dans un magasin et que tu ressors un peu plus intelligent, c'est déjà une victoire. Et ça, je l'ai vraiment pas vu beaucoup, mais ce truc-là chez Converse, je l'ai bien aimé.
Est-ce que dans les magasins aux États-Unis, tu vois qu'il y a des choses qui culturellement sont différentes par rapport à ce qu'on peut voir en France? Ou finalement, non, c'est assez transposable et les bonnes idées, on peut les réutiliser?
Les icebreakers et les openers.
Alors,
les openers, c'est les mecs à l'entrée dont le seul rôle est d'accueillir les clients. J'en ai vu.
C'est pas de la sécurité.
Non, pas du tout. C'est vraiment un opener. Quoi. Le mec, il est là, il a le sourire et tout. Alors, je l'ai vu. je l'ai pas vu dans tous les magasins, attention, mais je l'ai vu dans 3 magasins où j'ai vraiment été scotché, quoi. Il y avait notamment l'opener de American Star, là.
La marque de basket.
Voilà. Ouais. Le mec te raconte une histoire extraordinaire, il sourit, il te présente le magasin. Et c'est très dur de faire un opener.
Golden Goose, ouais.
Ouais, Golden Goose, exactement. Ouais, le mec te raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'il te dit pas bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? Là, à chaque fois, tout le monde dit non, merci, je regarde. Non, il te dit tiens, mais vous connaissez pas le conseil que je vais vous présenter, etc. Et il te parle pendant une ou deux minutes, mais il t'a créé le lien, il t'a brisé la glace. Ça, c'est très bien.
Et ensuite, il te redirige vers un vendeur ou c'est lui qui fait la vente ou le conseil?
Non, après, il te laisse aller dans le magasin et après, ils ont chacun un rôle un petit peu différent, quoi. Il y a l'opener et après, il y a le vendeur. Un des points aussi qui m'a surpris à New York, c'est le deuxième, c'est les vendeurs. Ils viennent pas voir le client de la même manière qu'en France. Enfin, en tout cas, en France, moi, je constate que c'est dramatique, hein, mais il y a énormément de vendeurs qui viennent te voir avec ce qu'on appelle une question fermée. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? À chaque fois, tu réponds, bah non, merci, je regarde. En Amérique, c'est bonjour, comment vous allez-vous?
Comment allez-vous? Ils n'écoutent pas forcément la réponse. Hein. Mais
ils n'écoutent pas forcément la réponse. Mais c'est une question ouverte. Bonjour, est-ce que vous connaissez le concept, etc. Ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais.
Maxence, moi, je voudrais juste revenir sur la fonction de l'opener. C'est quelque chose qui existait. Alors, je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années, tu sais, quand il y avait la grande vague de tous ces magasins, la Hollister et machin, et là, tu avais des openers qui donnaient de leur corps et de leur personne. Et effectivement, tu n'avais pas l'impression d'être dans un magasin, mais tu assistais à un show. Ouais. Et moi, je trouve que là, c'est hyper froid. Et alors, il y a certains magasins où j'ai vu aussi des openers comme ça. Mais encore une fois, je suis peut-être hyper pessimiste, mais je trouve qu'on est sur un retail assez lisse, moins fun. Il faut aller vraiment dans des concept stores type American Girl et toutes ces choses-là pour s'amuser, en fait. Et la réalité, c'est que moi, là, jusqu'à présent, je ne m'amuse pas, quoi.
En fait, les vendeurs, s'ils sont dans un concept, qu'ils aiment le concept et qu'ils s'amusent, forcément, ça va se ressentir, ils vont sourire et tout. Et l'inverse, c'est vrai, s'ils sont dans un concept lisse et froid, ils vont faire la gueule, quoi. Et on s'est malheureusement plusieurs fois fait accueillir par des vendeurs porte de prison, quoi. Ils tirent la tronche, quoi. Mais t'as les deux, tu vois, F.A.O. Schwartz, par exemple, extraordinaire. Ils sont heureux d'être dans leur magasin, ça se sent. C'est hyper agréable. Ils ont la banane. Et du coup, c'est communicatif. En fait, c'est de la neuroscience. Mais quand le mec sourit, ça agit en fait inconsciemment sur toi et sur tes envies. Quoi.
Maxence, qu'est-ce qui t'a le plus étonné ici à New York?
Alors, il y a deux trucs qui m'ont vraiment étonné et marqué. Le premier, c'est la quantité impressionnante de choses basiques qu'on connaît aujourd'hui dans le digital. Le nombre d'erreurs du coup grossières qu'on retrouve dans les magasins, on va aller en voir d'ailleurs un certain nombre tout à l'heure, mais il y a encore énormément de bullshit, de trucs qui sont pas bien ficelés, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont connues. Il y a plein de choses inconnues, hein, je vais le dire de manière très simple, mais le digital, il y a pas de livre, il y a pas d'école, mais il y a des choses vraiment aujourd'hui on le sait, quoi.
Tu peux donner un exemple parce que ça me parle pas? Donne-moi un exemple.
Je te donne un exemple qui m'a vraiment le plus frappé, et c'est un gros risque et un énorme danger, hein, chez Malbon. Ils ont un iPad qui est collé au mur avec le site e-commerce dessus.
D'accord.
Donc déjà, l'iPad, il était situé derrière la porte d'entrée, donc quand t'es en train d'utiliser...
tu prends la porte.
Et puis c'est au-delà, c'est pas la bonne endroit, et puis un iPad sur un mur, ça sert à rien. Mais c'est surtout le site web. On a fait un achat, et au moment de payer, en fait, il y avait l'ancien client qui était encore connecté. Et on a passé une vraie commande avec sa carte bleue. J'ai dit à Mani, valide. Non, c'est pas possible, ça n'a pas marché. On a dépensé $110.
Sur la carte de quelqu'un d'autre.
Sur la carte de quelqu'un d'autre. Un mec qui s'appelle Jervis et tout. D'ailleurs, je lui ai envoyé un mail, le gars. J'ai dit, écoutez, on est désolé. Mais non, mais on a passé une vraie commande. Et ça, c'est grave.
Tu l'as contacté, alors, c'est bien.
C'est un basique, tu vois. Mettre son site e-commerce dans un magasin.
Enfin, t'avais accès à ses données, du coup, puisque t'avais accès à son mail. Donc, t'avais accès potentiellement à son panier précédent.
Mais bien sûr.
À tout son historique.
Mais oui. Et ça, c'est grave, tu vois. Et ça fait partie des basiques. Mais c'est vrai qu'il y a plein de bonnes manières de se dire que c'est une bonne idée de mettre un site e-commerce en magasin. Et non, pas du tout, en fait. Et ça, c'est des basiques qui ne sont pas encore compris.
Il y avait d'autres choses qui t'avaient marqué?
Il y a un deuxième point et qui me tient vraiment à cœur, c'est le côté gâchis énergétique de certains magasins, voire greenwashing. Chez Victoria's Secret, il y a un écran qui doit faire 20 mètres de hauteur. Je dis, mais quel sens dans la planète d'aujourd'hui de voir ça? Tu vois, Times Square, les écrans partout, moi, ça me choque à un point, mais inconsidéré. Et c'est Mélissa, le showroom Mélissa truc, là. c'est le truc sur la vitrine, c'est marqué écologie, etc., recyclage. Et l'entrée du magasin, c'est un énorme tunnel avec un gigantesque écran qui doit consommer je sais pas combien de mégawatts.
Et des balles de
plastique. Ça me choque, ouais, littéralement.
Et ce qui est amusant, c'est que, enfin, c'est pas du tout amusant, c'est triste, mais c'est un magasin, tu nous l'as montré, enfin, on est passé devant, qui a été beaucoup repris dans Histoire Tour et qui est plutôt encensé. Donc, en fait, c'est très intéressant d'avoir ta lecture qui est un petit peu différente.
Ouais, je suis assez connu pour ça, malheureusement, j'ai envie de dire. J'ai souvent un avis un peu critique, mais je dis aussi des choses bien des fois. Ouais. Il y a plein de choses bien à dire.
Justement, est-ce que tu peux nous en parler, parce qu'on arrive à la conclusion, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus ou pour avoir ton retour là, sur ces centaines de magasins que tu as pu voir?
Bon, c'est sûr que je vais organiser une restitution. Je ne sais pas si elle tiendra en 2 heures. Je pense qu'il faudra peut-être plus, il faudra peut-être 3 heures ou 4 heures. Ça sera sous forme de visio, c'est certain. Et il y aura peut-être aussi en plus un événement en physique, soit à Paris, soit à Lille. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous écoutez, à me dire ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, c'est sûr, ça sera en visio, ça sera sur Zoom. Parce que,
et comment
du coup,
on fait
y a plein
pour
suivre
ces actualités justement pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut aller sur ton site, ton LinkedIn?
Alors, sur LinkedIn, je diffuse énormément.
T'es très actif.
Ouais, je diffuse énormément de photos. J'en ai diffusé pas mal là, d'ailleurs, sur la NRF. Sinon, tu cherches Figital Store Tour sur Google et tu tombes
et
assez facilement dessus.
Super référencement.
Il y a une mailing list. En fait, les événements sont privés toujours sur invitation. Donc, du coup, si tu t'inscris à la mailing list, t'es sûr de recevoir une invite pour les prochains Store Tours.
Maxence, pour compléter tous les Store Tours que tu fais ici à New York, je crois que tu t'envoles pour l'autre bout du pays.
Ouais, tout à fait. En fait, j'étais hyper frustré de ne pas voir Amazon Style. S'ils sont pas à New York, ils sont
dans leur fief.
Ils sont dans leur fief à Los Angeles et dans l'Iowa ou je sais plus où. Et donc du coup, on prend l'avion pour aller voir Amazon Style. Je suis très intrigué par ce magasin.
Et
j'ai
bah,
vraiment
aussi.
Besoin d'analyser. Et je veux pas voir ce qu'il y a dans la presse en fait, parce que c'est toujours un peu biaisé. Donc j'ai hâte.
Tu vas tester toi-même.
Ouais, je vais aller tester moi-même.
Et on vous racontera.
Et on vous racontera. Ouais.
Super. Merci Maxence.
Merci beaucoup Maxence.
Merci Maxence.
À très bientôt.
Bonne continuation.
Bon, Laetitia, on arrive doucement, mais sûrement et tristement à la conclusion de ces hors-séries, de cette grande parenthèse de plusieurs jours de NRF. On a noté quelques points qu'on voulait partager à nos auditeurs. On s'est concerté pour faire une conclusion commune. Le premier, Laetitia, c'est toi qui le porte. Dis-moi, qu'est-ce que qu'on a retenu de ces plusieurs jours à la NRF?
Ah ben, ce que j'ai retenu, c'est l'absence totale de présence de la Green Tech. Ouais. C'est pas une priorité, c'est pas un sujet, donc j'ai pour habitude de dire que ce qui ne se voit pas n'existe pas, zéro pointé quoi, enfin y a rien qui va. Alors bon, oui, je suis un petit peu pessimiste. Oui, effectivement, sur des solutions de recommerce, de choses comme ça, il y en a. Il y avait notamment Lizzie qui était sur le pavillon français, et puis après sur toute la gestion, mais en tout cas sur l'évitement du gâchis et du gaspillage alimentaire, il y avait Westless qui est une société israélienne. Mais sinon, c'est pas un sujet et de manière générale, le climate change n'est pas du tout un sujet de la NRF.
Ouais, et on voulait mettre ce premier point, parce que tant sur la forme que sur le fond, rien n'y était. Sur la forme, quand on était sur le salon, tout le monde balance les goodies. Tu t'en avais déjà parlé au micro, mais c'est flagrant. Les papiers partout, les poubelles qui débordent, il y a rien du tout. La bouffe, c'est aussi du grand n'importe quoi. Et donc sur la forme, il y a ça. Et puis sur le fond, comme tu l'as dit, les solutions sont très peu nombreuses, les messages ils sont pas du tout cohérents, et les messages ils sont portés par des SAP ou des très très gros, ouais. Parce que ça fait bien, mais effectivement c'est assez triste.
Ah, on est dans le taxi et là je vois une pub pour Lidl, et je ne savais pas que Lidl était implanté aux États-Unis. Je voulais juste rajouter que ce qui aurait été bien quand même sur ce salon, c'est de faire des partenariats avec le Too Good To Go US par exemple. Le gaspillage alimentaire était omniprésent, franchement. Vous pouviez manger tout et n'importe quoi et le jeter instantanément. Et moi, j'aurais bien voulu que l'ensemble de tous ces produits, à la fin du salon ou à la fin des journées, puissent être donnés aux sans-abri qui sont pas très loin non plus du Javits Center. Donc, ça aurait été bien, quoi. Et c'est absolument pas démago de ma part ou quoi, mais la quantité de nourriture qui est jetée, gaspillée, et en plus qu'on paye hyper cher quand on paye et quand on ne l'a pas offert, ça va pas quoi. Adrien, le deuxième point de conclusion sur ces 4 jours ?
Bah écoute, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait plein de sujets qu'on n'avait pas du tout abordés, là au sein du podcast, parce qu'on a dû choisir. Donc effectivement, parmi toutes les heures là, qu'on a pu enregistrer, on n'a pas parlé de robots dans les entrepôts, de caméras, de solutions digitales in-store, de caisses self-checkout, etc. Il y a tellement de sujets.
De paiement avec la paume de la main, qui était juste la seule, j'ai envie de dire, innovation.
Oui, il y en avait peut-être plein, mais on a essayé vraiment d'essayer de se focusser sur ce qui nous intéresse, qu'on voulait voir et ce que vous pouvez apporter pour les auditeurs. Mais il y avait un paquet de solutions ou de conférences. On a décidé consciemment de ne pas y aller et puis on sait que c'est couvert par d'autres. Il y a des choses que tu aurais aimé on avait eu plus de temps ou ça avait duré plus de temps. Tu aurais aimé aller voir ?
Ouais, j'aurais bien voulu voir et tester les caisses en self-checkout. J'aurais bien voulu tester le paiement avec la paume de la main. Voilà.
Donc ça, c'était ce qu'il y avait sur le salon qu'on n'a pas vu. Et la troisième chose qu'on avait notée dans cette conclusion, Laetitia, c'était quoi ?
Bah, c'était l'absence de... Alors, pas de la Chine. Alors si, l'absence de la Chine, on sait très bien, je sais, on va me dire, mais Laetitia, c'est compliqué de voyager. Oui, merci, je sais. Mais c'est aussi compliqué de mettre en avant des solutions chinoises. Elles sont absentes, elles n'existent pas. Alors, il y a des solutions asiatiques, hein, mais en tout cas, la Chine n'est pas un repère, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un modèle. Et justement, quand on va parler de la Chine, eh bien, c'est pour soulever le fait qu'il faut limiter cette dépendance avec la Chine. Et donc, on ne prononce pas ce mot. Ça n'existe pas, en fait.
Les quelques fois où on le prononce, c'est pour dire que le tourisme va reprendre en fin d'année. Et pour
oui,
rejoindre ce que tu dis,
au luxe.
On explique souvent que la NRF, ça va être un salon mondial du retail. En réalité, c'est Western
c'est,
World.
Bah c'est américano-américain.
Voilà, il y a de l'Amérique du Sud, il y a de l'Europe, d'une certaine manière. On ne peut pas dire non, parce qu'il y a plein de start-up, de solutions et de personnes, mais l'Asie c'est complètement mis de côté, et quand on sait le poids de l'Asie et de la Chine et en quoi, tu vois, ils nous expliquait tout comment faire dans le live shopping, c'est qu'un exemple, mais il y aurait tellement de choses qui pourraient être également portées par l'Asie. C'est vrai que c'était dommage. Et il y avait un autre grand absent, Laetitia.
Et ben c'est Amazon. Alors non, en réalité Amazon est présent
de manière indirecte.
Vous avez de la WS, je crois qu'il y avait du fulfillment mais le retail, Amazon retail, n'est pas présent. Enfin, on n'en parle pas. Alors, je comprends, hein, bien évidemment. Amazon a... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, a mis en place une entreprise de destruction sur le retail. Et du coup, on n'en parle pas. Amazon n'est pas du tout présent comme un acteur du retail.
On le voit... avec des solutions, c'est-à-dire à l'entrée même tu peux acheter des produits et puis passer par Amazon, donc c'est comme une mini boutique Amazon. À l'intérieur, tu as quelques solutions. Sur certains stands, on te dit tu vas pouvoir faire comme Amazon, la gestion des entrepôts, etc. Donc tu vois, ils sont un petit peu, mais c'est un peu timide, c'est un peu bizarre. Et après en off, Lucie, on a appris qu'Amazon, ils étaient un peu blacklistés,
un
tout simplement.
Un peu détestés de la NRF.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, déjà on le voit pas en France, mais je pense que tout le monde s'en fout. Enfin bon, peu importe, mais aux US, là on a vraiment appris que la NRF et Amazon, ce sont pas des copains. Et effectivement, donc ça explique aussi pourquoi ils sont pas présents. Mais pareil, qu'on veut se dire qu'on est le rendez-vous du retail et ne pas l'avoir, c'est toujours un peu bizarre.
Ouais, et déceptif aussi, parce que nous, quand on fait le voyage, c'est qu'on a envie de voir toutes les innovations Amazon. Adrien, le quatrième point, ça te conclut ?
Ouais, c'est marrant parce qu'on est plutôt d'accord là-dessus, donc je suis content de le porter avec toi, ce sujet. J'ai quand même un feeling, là on est en train de rentrer à l'aéroport, que la NRF c'est quand même surcoté. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça fait des années que j'entends parler de la NRF, que c'est vraiment le salon qui change tout, qui définit, qui donne le pouls, qui va définir les tendances, etc. Pour aller vraiment à l'extrême, je dirais que c'est un super Paris Retail Week. La première fois, je te l'ai dit, là, il y a 4 jours, tu m'as repris. Après, je me suis dit, bon, attends, on va voir. Et finalement, il n'y a pas de one-to-one. Okay, t'as des conférences, des grandes conférences, beaucoup de conférences. T'as des track sessions, t'as des stands, t'as des goodies. Et puis voilà, bah, ok, il y a des store tours et puis des press tours, ce genre de choses. Mais finalement, j'ai rien trouvé, waouh, qui est unique, qui m'a dit, ce salon-là, il est extraordinaire par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. Laetitia, tu partages mon avis ou pas ?
Ouais, je partage ton avis, un peu surcoté la NRF. Alors, peut-être qu'on est des gens totalement blasés et qu'on a fait beaucoup trop d'événements et de salons dans notre vie. mais c'est surcoté parce que, voilà, je le répète, c'est très américain. Quand on passe du temps dans les conférences et qu'après on va se balader, on se rend compte qu'il y a une espèce de dissonance entre tout ce qui est dit et ça va pas, en fait. Donc on est toujours entre le chaud et le froid, je trouve, sur ce salon. Oui, on repart avec des tendances, des directions, qu'on, bien évidemment, qui sont importantes, mais c'est comme tout, c'est pas la grand-messe où on va écouter, on va abdiquer et on va dire oui, c'est vrai, on est d'accord. La réalité, c'est que non, souvent, on n'est pas d'accord et donc on va pas revenir en vous disant que ça va être ça, les grandes tendances de 2023, parce qu'on les a entendues et vues à la NRF. Non.
Il y a autre chose, c'est que tu vois, des salons comme le CES ou l'IFA, tu vas donc dans l'électronique grand public, etc., tu vas et tu as des annonces. Tu y vas pour annoncer quelque chose, donc tu as tout préparé pendant des mois, tu gardes ça en secret et lors de l'événement, tu annonces. Franchement, la NRF, on est parti sur tous les stands, on leur a tous demandé est-ce que tu as une annonce particulière ? Il n'y a pas d'annonce. En fait, ça s'inscrit dans le calendrier des salons.
Ouais,
tu es d'accord avec moi ou pas ?
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, il y a peut-être une grosse annonce, c'est qu'il va y avoir la NRF qui s'est associée avec Comexosium pour faire la NRF en Asie. Voilà. Mais sinon, oui, on est inondé d'informations et d'annonces via des PR et c'est pas très.
Du coup, c'est cool quand même, on va pas faire les rageux.
Non,
on
c'est
dit pas
très
que c'est nul,
bien. C'est, il faut y aller, oui, effectivement.
Tellement, il y a tellement de marketing et tout ça, tout le monde fantasme sur ça.
Non, il faut y aller, mais c'est surtout qu'il ne faut pas non plus fonder toute cette direction e-commerce et sa stratégie uniquement sur cet événement.
Ouais. Et avant de passer à la suite, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a aucun secret de Polichinelle ou un gros secret que des choses qu'on a appris, qui se fait ici, qu'on n'a pas en Europe.
Ouais.
Tu vois, il n'y a pas une exclusivité, un truc de fou. Tu dis, il faut vraiment être là si tu le loupes. Non, s'il y avait eu, je sais pas, des tablements, des trucs, un truc vraiment unique, ou alors, encore une fois, peut-être qu'on n'y était pas, on n'était pas invité ou quoi que ce soit, mais j'ai rien trouvé qui était exceptionnel et qui vaille tant le coup. Cela dit, on va y retourner.
si on est encore invité, hein, parce que.
on y retournera et je trouve ça bien, mais c'est juste pour tempérer peut-être des personnes qui n'y sont pas.
C'est pas grave.
Ouais, mais c'est tu sais, il y a toujours l'effet aussi des personnes qui y sont, qui disent c'est extraordinaire, c'est génial quand t'es en vacances et tout ça, qui peut-être aussi idéaliste. Donc oui, c'était très bien, mais il y a des choses super on a pu rencontrer des acteurs qui n'existent pas, qui sont pas en Europe, etc. Il y a eu des discussions qui étaient intéressantes, mais voilà, tu parles à Shopify aux US ou tu parles en France ou tu parles à Google aux US ou en France, t'auras les mêmes informations. Et enfin, Laetitia, dernier point. Pour cette grande conclusion de tous ces épisodes, c'était quoi ?
Eh ben, c'est merci. Merci la NRF d'organiser ça malgré tout. Merci vous, les auditeurs et les auditrices, pour vos réactions. On a publié beaucoup de contenu avec Adrien. C'est un pari assez fou, assez osé de faire un podcast par jour. Mais au-delà du podcast, il y a toute la communication autour et puis les contenus qui s'en détachent. Donc, on a produit beaucoup de choses. Ils avaient été hyper actifs, vous avez interagi, on a reçu respectivement beaucoup d'images pour nous, d'images, de messages pour nous remercier et nous dire combien c'était génial. Non, je blague parce que parfois il y avait des bugs, il y a des liens qui fonctionnaient pas, il y avait des fautes d'orthographe et ça aussi, merci.
Ouais, ça fait vraiment plaisir quand on passe autant de temps. Ça, peu importe qu'on passe du temps dessus, mais en tout cas, on a eu une super réaction. Un autre merci, c'est toutes les sociétés qui sont pas passées au micro, qui ont pas eu leur, quart d'heure de gloire, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de sociétés américaines, israéliennes ou peu importe d'où elles sont, même françaises d'ailleurs, qui ont pris le temps pour nous expliquer ce qu'ils faisaient, qui ont répondu à toutes nos questions torturées, mais on n'a pas fait on n'a pas eu l'occasion de faire des interviews ou quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas de francophones, parce qu'il n'y avait pas le temps ou quoi que ce soit. Donc merci à tous ceux qui nous ont alimentés avec plein d'informations. On a documenté, on a fait des photos et ça nous servira pour compiler et puis peut-être dégager des choses un peu structurées. Donc merci à elles.
Et puis merci à la communauté française qui était très représentée. Je crois que c'était plus de 40 startups françaises de la French Tech qui étaient là. Merci, vous étiez tous cool, vous aviez tous des superbes solutions. J'espère que ça va être un vrai tremplin pour vous, que ça va vous apporter la visibilité que vous méritez. J'ai discuté avec pas mal entre vous, les temps sont durs, les levées sont compliquées, les clients sont frileux. Donc bon courage et j'espère vraiment que cet événement vous apportera le coup de projecteur que vous méritez.
J'ai bien aimé le lien entre tous les Français, j'ai trouvé que c'était hyper cool quoi, bonne ambiance, vrai, c'est vrai. Genre le soir.
Une petite ambiance
ça,
Coupe du Monde.
Ouais, exactement.
Où on est tous ensemble et on va gagner.
On se partage les plans, tout le monde a le sourire, cède, etc. C'est vraiment relax, donc je suis d'accord avec toi. Merci aussi aux personnes de l'ombre, les personnes qui aident le salon à exister.
Bah ouais, parce que c'est un gros salon, il y a beaucoup de monde et on met souvent les coups de projecteur sur les gens qui sont sur scène, les belles personnes qui montent sur scène, mais en fait tout ça n'existe pas sans toutes les petites mains derrière. Nous, on a beaucoup squatté les press rooms, tous ces endroits-là qui sont pas toujours accueillante au maximum, voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est là. On restait très tard avec Adrien. On nous virait presque. Mais voilà, c'était les gens qui faisaient la relève, qui nettoyaient toutes les cochonneries de tout le monde.
Exactement.
Qui montaient les stands, qui démontaient, qui nettoyaient les toilettes.
Ça a toujours été les gens les plus sympathiques. On leur demande une
petite photo, c'était les gens les plus sympas. Vraiment.
Les héros de l'ombre.
Ouais. Les héros de l'ombre.
Ouais, et puis ça peut paraître démago, mais on s'en fout. C'est notre média.
Ça me tient vachement à cœur.
Exactement, c'est ce que je voulais dire. Merci aussi à une personne de l'ombre qui nous aide depuis des années. C'est Benoît pour le montage. On lui envoyait les pistes, il faisait ça jusqu'à 2-3 heures du
Mans. Pendant 4 jours.
C'est son enfant en bas âge, ses 4 enfants, etc. Donc c'est notre popote, mais merci. C'était vraiment un marathon pour nous la journée, pour Benoît la nuit, pour publier en temps et en heure. Donc merci à lui.
Et enfin, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont permis de faire tout ça, parce que pour faire tout ça, c'est des rendez-vous, c'est des connexions, c'est des mises en relation. On voudrait remercier Cédric, Laetitia, Michel et puis aussi les agences. Il y a pas mal d'agences qui nous ont aidés. Les agences Pierre étaient plutôt cool, d'ailleurs, celles qui venaient à nous plus que l'inverse. Mais merci, vous avez fortement contribué à la qualité, j'espère, de ce contenu.
Ouais, et puis on a pris le risque de commencer à donner des noms. Si on ne cite pas tous les noms, certains vont être tristes, mais tous ceux qui nous ont aidés à organiser ça.
Toi-même, tu sais.
Voilà, c'est ça. Désolé à tous ceux qu'on n'a pas pu voir. Merci. Et donc, peut-être pour terminer sur une note un peu cool, c'est quoi la suite, Laetitia ?
La suite, on aimerait bien poursuivre et faire d'autres salons. Alors, pas forcément aux États-Unis, mais voir comment ça se passe ailleurs. Et puis avoir un œil différent sur l'e-commerce de 2023, parce que là, ça ne s'annonce pas glorieux.
Et dites-nous si ça vous a plu. Contactez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn ou peu importe, en passant par le site internet, si cette couverture vous a plu, si ça vous dirait qu'on fasse d'autres événements, parce que c'est vrai que la NRF s'est couvert par beaucoup, mais il y a plein d'autres événements qui existent en Europe et aux États-Unis, enfin un peu partout, mais ça nous a peut-être donné envie, nous, de continuer à couvrir des événements et à vous les partager de cette forme-là.
Et ça y est,
merci
Adrien,
beaucoup.
Merci.
On se dit merci à tous les auditeurs, à votre fidélité, et puis on se dit à très bientôt pour un épisode normal, Back to Basic, c'était ça qu'on retient.
C'était Back to Basic,
on retourne au basique.
Ouais, on retourne.
Je crois que je l'ai entendu dans toutes les langues, de tous les accents, de tous les sens.
Pour
tout le monde était Back to Basic. Donc vous allez voir les Back from NRF, vous allez voir ce Back to Basic partout. Et nous aussi, on retourne au basique avec un épisode de revue de presse. Il y a eu, je sais pas si j'ai pas vu passer beaucoup d'actualités.
Moi, j'ai vu passer pas mal de layoffs encore et toujours.
Ouais.
Donc
ça va être encore un épisode feel good.
Ça va être très feel good.
Bon, allez, merci à tous et à très vite.
À bientôt.
Bonjour à tous, ici Adrien, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger des Cheetos, de refaire son CV sur... Pourquoi c'est quoi cette blague?
Tout le monde refait son CV sur ChatGPT.
Ouais.
Ok. Adrien, ton troisième point.
Mon obsession,
j'ai parlé de bouffe. T'as mis un quatrième point, putain.
Non, j'ai mis trois. De quoi
non,
tu me
je
parles?
Vois un quatre.
Où ça, quatre?
Un, deux, trois, quatre.
Non.
Trois choses qui m'ont marqué, restauration.
Bah oui, c'est trois. Un, deux, trois. De quoi tu me parles?
Non mais Adrien...
RSE, Microsoft.
RSE, tous les sujets qui n'ont pas été abordés, robots, quatrième point,
non,
restauration.
Non, le 3, il n'existe pas, mais en fait, ça, c'est pas synchronisé. Parce que moi, j'ai que 3, 1, 2, 3. Quelle violence, j'espère que tout ça, on l'a en record, mais j'espère qu'un jour, ça sera public.
Non, parce que moi, il me dit d'en faire, j'en dis mis un quatrième point, il me dit non, il faut mettre 3.
J'ai tout effacé, mais j'espère la manière dont tu me parles, que tout ça, c'est enregistré, que ça va être uncut, la version uncut, et que ça sera publié, qu'on voit enfin le vrai visage.
Mais tout ce qui est coupé ne transcrit pas la réalité, c'est de la réalité maquillée.
Pourtant, là, je suis connecté à Internet, t'es sûr que...
Non, mais ça y est, maintenant, tu viens de le péter, mais je t'ai vu, t'as supprimé. C'est pas grave, anyway. Okay, et vas-y, continue.
Comment en un clic, je peux supprimer et remettre en bas.
Ok.
Je te commence. On va commencer.
Je te termine, je te commence.
Le Café du Commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger des Cheetos, en train d'utiliser ChatGPT pour refaire votre CV ou toute autre chose. Non, j'ai une idée. Le Café du Commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger des Cheetos, en train d'utiliser ChatGPT, en train d'utiliser. Si j'aimerais bien avoir mon avatar dans, et mes dimensions, mes mensurations, etc. Ma taille de poitrine, ma taille de fesses, etc. Non, je rigole, tu comprends ça, Benoît.
Absolument, c'est pas dit ça.
Je sais. Non, ça, Benoît, tu comprends.
Mes mensurations, ça passe.
Voilà. Pourquoi tu veux en parler,
Bon. Mais non, au lieu de dire taille de machin, dis mensuration.
Mais mensuration, c'est que les seins ou c'est de tout?
Non, c'est les hanches. Non, t'as les hanches, t'as les fesses.
Ok. J'étais venu avec, je crois que j'en avais parlé dans l'avion, parce qu'on a pas mal discuté. Je l'ai refait, mais sans rigoler. Elle était bien.
C'est moi qui te lance?
Je peux te lancer.
Okay.
T'as pété?
Mais
tu peux
mais
le dire.
T'as un vrai
ça
problème.
Ça fouette de ouf.
Adrien, non, je n'ai pas pété.
Mais
non,
moi, ça me va que tu le dises. Okay.
Mais Adrien, je le dirai.
D'accord, parce que ça ferait. Il n'y a personne aux alentours.
Mais Adrien. Si, quelqu'un derrière moi déjà.
Et toi, tu sens rien?
Et déjà, je ne sens rien.
D'accord,
donc,
ok. Alors, trois.
C'est un vrai problème.
Juste, j'aime bien quand je dise les choses. 3.
D'accord, Adrien. Donc, non, je n'ai pas pété. Et quand j'aurai envie de péter, je le dirai. Donc, tu peux. Benoît, garde tout ça, blablabla. Le mec a un problème, quoi. Oh là là.
Mais moi, ça sert à rien de le cacher. On est à côté. Donc, c'est juste
mais
ça.
Adrien,
et tu l'as dit, on passe à autre chose. Les Frenchies de la NRF. On recommence.